Donc, Luc, tu veux me parler d'un sujet qui est pas sexy à première vue, mais qui est très, très important, une décision de dézonage agricole dans Lanaudière.
Et pas sexy, mais t'as raison, ô combien critique. Regarde, tu te rappelles que j'ai quand même fait deux chroniques qui flattaient la CAQ dans le son du poil.
Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, là, je t'ai dit que t'étais tellement élogieux envers le parti de François Legault que je m'attendais à ce que tu te fasses recruter par eux autres.
Oui, c'est ça. Ben, finalement, ils m'ont pas envoyé d'invitation. Puis bonne affaire qui a attendu jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'étais en bâton de fusil. Comme d'ailleurs... comme d'ailleurs tout le monde, comme tous les maires de la grande région de Montréal, les maires de la Couronne-Nord, les maires de la commission métropolitaine, tout le monde. Parce que ils ont pris une décision d'accepter le dézonage de plus de 100 hectares de terres agricoles à Saint-Calixte, dans la MRC de Montcalm. 100 hectares, trois fois le parc La Fontaine, quatre fois l'esplanade du parc olympique. C'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il faut comprendre là, que le PMAD, donc le programme d'aménagement de la grande région métropolitaine de Montréal, c'est un truc là, en 2011, là, ça s'est fait de haute lutte. Là. Tout le monde a embarqué pour dire ben ça va faire. Là. On va arrêter de construire des bungalows à 60 km de Montréal, parce que ultimement, ce qui se passe, c'est que ces gens-là utilisent les petites routes qui sont congestionnées, qui mènent aux autoroutes qui sont congestionnées. Si tu construis loin des transports en commun, tu nuis à tout le monde. Puis tu nuis pas juste à Montréal, là, puis au quartier central de Montréal, là, tu nuis aussi aux couronnes, comme Terrebonne, par exemple, le maire qui est sorti de façon la plus significative aujourd'hui, c'était le maire de Terrebonne, très fâché. Et ces gens-là, ils veulent tous développer leur territoire. Tout le monde a envie de rentrer plus d'argent de taxes. Et ils ont respecté le PMAD. Ils ont respecté l'orientation globale qu'on s'est donnée. Mais là, à Saint-Calixte, il se trouve que Saint-Calixte, ça fait trois fois qu'ils déposent leur projet de dézonage, et les deux premières fois, ils se sont fait dire non parce que c'était le gouvernement libéral qui était en place, et là, la CAQ leur ouvre la porte.
Mais Luc, juste pour situer les gens, là, c'est une décision qui a été prise par le politique, c'est ça?
Non, elle n'est pas encore prise tout à fait, okay. Parce que elle a été, Saint-Calixte l'a adopté, la MRC de Montcalm l'a adopté comme règlement. Et là, maintenant, il faut que la Commission de protection du territoire agricole se prononce. Alors, ce dont tout le monde a peur, c'est que la Commission de protection du territoire agricole, qui d'habitude refuse, se laisse influencer par le politique. Ils n'ont pas tort de s'inquiéter parce que Louis-Charles Thouin, qui est ce membre de la Commission d'aménagement du territoire à Québec, était l'ex-maire de Saint-Calixte. Et il a été l'adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales, Madame Laforêt, pendant un an. Alors, on a l'impression que les dés sont pipés.
Je t'arrête encore une seconde. La Commission de protection du territoire agricole, là, Luc, c'est un organe indépendant. Là. Je veux dire, c'est quasiment un tribunal. Fait qu'il devrait être à l'abri de toute forme de pression politique, d'où qu'elle vienne.
On peut espérer ça. Mais on peut aussi s'inquiéter, d'autant plus que on entend la ministre Laforêt s'exprimer presque volontairement de façon très positive pour ce projet-là. Et ça, c'est fâchant aussi, parce que ce qui me fâchait, moi, dans la CAQ, que j'avais peur de ce qu'ils pourraient faire, c'est de retourner à ces vieux concepts de développement, le bon vieux développement des bungalows, des stations de garage au coin des rues, puis des Boston Pizza sur le Grand Boulevard. Et la première affaire qu'elle a faite en arrivant, c'est ça. La première affaire, elle a commencé une tournée du Québec en disant, ben là, on va pas commencer le développement, là. Il faut qu'on donne de l'air aux régions, puis il faut qu'on... Puis ça, c'est les mousus de contraintes inutiles, comme par exemple la loi sur les milieux humides, là. C'est donc ben contraignant, ça. Et puis, heureusement, sa déclaration à l'époque, la déclaration à l'époque, là, c'était plein d'images comme je viens de te faire là. C'est pas moi qui les invente, c'est elle qui s'est tirée dans le pied. En région, on en a beaucoup de milieux humides, on va pas commencer à toutes les protéger, puis on dirait que c'est une loi qui a été faite pour Montréal. Mais imagine-toi donc que l'être suprême, je sais pas si c'est un dieu ou je sais pas quoi, lui a donné la réplique en envoyant, paf, des inondations sur le Québec, qui a arrêté ce discours complètement rétrograde sur les milieux humides, et on l'a plus réentendu après.
Mais là, oui, parce que les milieux humides, faut le dire, Luc, c'est très utile pour absorber comme une éponge la crue des eaux. Là.
Exactement. Mais elle avait quand même révélé son état d'esprit. Et là, on croise les doigts pour qu'elle ne révèle pas une seconde fois son état d'esprit sur la question.
OK, parfois. Parle-moi de Régine Laurent là, qui a fait un coup de gueule aujourd'hui à la commission sur le DPJ. Elle a dénoncé l'omerta dans le système des services sociaux.
Oui, alors, Bon, il y avait une lettre qui était sortie avant où des spécialistes disaient on n'a pas le droit de se prononcer. La santé depuis M. Barrett est régie comme des principes de gestion managériale et de type industriel.
Oui, la méthode Toyota. Même Barrett, hein,
ouais, c'est ça.
C'était le ministre Bolduc là, qui avait implanté ça.
Bon. Et les réorganisations, la centralisation venaient par la suite. Et donc... elle aussi, il y a Mme David qui, ayant interviewé deux gestionnaires la veille, a dit « Mais mon Dieu, on comprend rien quand ils parlent. » Les gestionnaires ont refusé de donner des commentaires aux médias. Puis aussi, plusieurs gestionnaires ont refusé de déposer des mémoires. Alors, Mme Laurent a dit « Mais coudonc, on est là, pourquoi? »
Et Luc, pas juste ça, les intervenants et surtout les intervenantes, hein, surtout des femmes de la DPJ, celles qui connaissent le mieux le système, ils veulent pas aller là parce qu'ils veulent pas se faire taper ses doigts pour manque de loyauté par leurs employeurs dans les CIS et dans les CIUS.
Oui. Et moi, je pense comprendre un peu pourquoi. Je fais une hypothèse. C'est que la DPJ... On voit les problèmes ressurgir, mais c'est pas comme si c'était des problèmes d'incompétence de personnes qui sont parties. C'est des problèmes de manque de ressources de personnes qui sont là. Et donc, si par hasard la commission n'arrivait pas à influencer le gouvernement sur l'importance d'ajouter des nouvelles ressources, c'est le même système qui va être conduit, à peu près. Alors, de dire que commencer à pester contre le système qui est tel que le minimum de ressources n'est pas donné. Mais c'est peut-être pester contre le système qui pourrait perdurer. En tout cas, c'est le pester contre le système qui a été en place pendant des années et on n'a aucune garantie que ça pourrait perdurer. Si, par exemple, le gouvernement avait dit, savez-vous quoi, là? Je veux une réforme complète. On va mettre de l'argent là-dedans. Comme il l'a dit, par exemple, en éducation, quand il a parlé en campagne électorale, puis par la suite sur le parascolaire, sur l'état des édifices. Donc, des déclarations gouvernementales qui nous disent, je m'en vais par là. Mais là, tu commences à te dire, bon, ben... J'ai le droit de proposer quelque chose. Mais si tu ne sais pas ce qui va se passer, tu risques d'être le dindon de la farce.
Hey, écoute, pour te dire à quel point les intervenantes ont peur, et la commission le sait et le sait depuis longtemps, ils ont une sorte de formulaire sécurisé pour accueillir les témoignages des gens qui voudraient témoigner sans que ça sache, sans que leur boss le sache.
Ah oui.
OK, je comprends que ça vise aussi les jeunes de la DPJ, les anciens jeunes de la DPJ, mais ça vise aussi les employés actuels.
Mais je te crois tout à fait, parce qu'on ne peut pas imaginer un système qui a géré avec des morceaux de ficelle comme ça et qui a été obligé de prendre des décisions cruelles pour les enfants. Cruelles pendant 10 ans. Et s'imaginer que tout à coup, ce système-là va s'ouvrir, va s'épanouir, va donner accès à tout. Parce que dans ces livres-là, dans ces témoignages-là, il y a des décisions extrêmement difficiles. Puis là, je pense qu'on peut prononcer le mot cruel.
Et mal avisé.
Quand on parle de 236 jours d'attente pour intervenir sur un signalement, je pense qu'on peut commencer à parler de cruauté.
C'est bien simple, hein, que ce soit dans les commissions scolaires, dans les CHSLD, dans les hôpitaux, dans les écoles, à la DPJ. Si les seules personnes qui sont autorisées à parler, ce sont celles qui signent les communiqués de presse, la réalité, là, ben, tu peux la façonner. Puis la réalité va toujours sentir le lilas. Si tu laisses les profs, si tu laisses les infirmières, si tu laisses les intervenantes de DPJ raconter c'est quoi leur quotidien, le monde va grimper dans les rideaux puis les gestionnaires n'aimeront pas ça.
Et voilà.
Salut,
tout
Luc.
Tout à fait. Ah, c'est encore optimiste qu'on s'est échangé.
Ben oui, hein, on finit toujours sur des affaires un peu... Mais c'est correct, des fois t'es drôle, puis des fois t'es
des plate. Des fois je suis plate.
Non,
c'est la vie.
T'es pas plate, t'es nécessaire.
Ah, okay? Merci,
aujourd'hui,
merci.
C'est une chronique brocoli. OK, 17h22, merci, au retour. Pierre-Yves McSweeney, là, on va parler de Second Cup et de Canadian Tire.